Merci à la librairie Mola de nous recevoir ce soir pour parler donc du très beau livre de Benoît Dutertre, Livre pour adultes, publié chez Gallimard, qui d'ailleurs, je crois, a précédé d'un mois environ la publication d'un autre petit livre. Enfin, je dis petit parce que je ne l'ai pas eu en main en l'occurrence, mais aux éditions Prisma, la collection Incipit. Avec deux amants, c'est beaucoup mieux.
Un tout petit livre.
Un tout petit livre, en l'occurrence. Ouais. Vous avez travaillé avec un dessinateur, un illustrateur. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. Évidemment, ce soir, on est là pour parler de livres pour adultes. Mais je voulais quand même souligner qu'il y avait cet autre livre paru presque en même temps. Voilà, donc... Peut-être pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, je n'ai pas réussi à trouver le nombre exact parce que les sources que j'ai divergent, mais ce serait le 25e ou le 26e livre, tout dépend comment. Et bien tant que ça. Vous n'êtes pas seulement romancier, vous avez publié de nombreux romans, notamment chez Gallimard, vos tout premiers, je crois d'ailleurs, dans la collection de Philippe Solers, oui. L'Infini. Mais vous avez aussi publié chez Grasset, chez Fayard, et notamment des essais de critiques musicales dont l'un d'entre eux avait fait grand bruit, Requiem, pour une avant-garde. Est-ce que vous voulez déjà nous dire peut-être un tout petit quelque chose de cette multi-activité à la fois chez plusieurs éditeurs et dans différents styles, parce que ça se sent en fait dans ce livre-là.
Pour adultes, oui. En somme, non, ce n'est pas si dispersé que ça, si j'ose dire, parce que... Vous m'entendez? Oui, c'est allumé, oui. En réalité, j'ai publié, surtout des romans et des nouvelles, la plupart chez Gallimard, mais aussi quelques-uns chez Fayard, effectivement, où c'était des livres un peu plus fantaisiste, un peu plus de fiction, comme La petite fille et la cigarette, des choses voilà. Chez Gallimard, j'ai peut-être publié des livres plus personnels, effectivement, et la plupart de mes livres. Mais j'aime bien de temps en temps aussi écrire des réflexions, ou rassembler des articles, ou écrire un essai. Et donc j'avais fait effectivement d'abord ce livre Requiem pour une avant-garde, où je me moquais un peu de ce que j'appelais l'académisme d'avant-garde, l'avant-garde institutionnelle, enfin la modernité officielle. Et ça avait fait une grosse polémique. Après, j'ai continué un peu. D'ailleurs, j'ai publié chez Fayard un livre, volume qui s'appelle Polémique, justement, où je polémique sur des tas de sujets de société comme ça. Mais c'est aussi bien sur les cyclistes qui roulent sur les trottoirs que sur la musique ou sur la littérature. Et voilà. Et donc, et d'ailleurs, là, je finis à nouveau un petit recueil d'essais. J'aime bien de temps en temps. Et c'est vrai que, néanmoins, dans beaucoup de mes livres... Alors, dans mes romans, par ailleurs, il y a des livres beaucoup plus personnels, comme Les pieds dans l'eau, ou des livres assez autobiographiques, et puis des livres plus fantaisistes. Mais souvent, effectivement, même à l'intérieur de ces livres, il y a des moments de réflexion sur notre époque, sur notre société. Et d'où le fait, comme vous l'avez dit, que mon dernier livre, Livre pour adultes, c'est peut-être une espèce de tentative de synthèse de tout ça.
Oui, d'ailleurs, ce regard sur la société avait été relevé en son temps par Milan Kundera pour votre troisième roman, Tout doit disparaître. On pouvait imaginer pire comme début en littérature.
Oui, c'est vrai.
Enfin, vous aviez eu Guy Debord, Milan Kundera, et je crois que vos tout premiers textes, c'était Samuel Beckett qui vous avait conseillé de les envoyer chez Minuit.
Chez Minuit, mon premier texte était paru dans la revue Minuit, qui était à l'époque la revue des éditions de Minuit, grâce à effectivement la recommandation de Beckett, qui m'avait très gentiment lu et encouragé. Et alors, c'était un peu loin, alors que Kundera, c'est vraiment un ami pour le coup.
Et alors justement, ce dernier livre, Livre pour adultes, d'ailleurs on aura l'occasion, j'imagine, de reparler du titre, qui n'a rien de grivois en l'occurrence, même si on aurait pu, sans absolument savoir de quoi ça allait parler, éventuellement penser à cela. C'est pas du tout ça.
Non, après, je me suis demandé, est-ce que j'ai eu raison d'appeler ce livre « Livre pour adultes ». Moi, le titre me plaisait parce que c'est un livre qui parle de choses graves, de choses dont on prend conscience d'une certaine façon avec l'âge, à l'âge adulte. Et donc, ça m'amusait, voilà, parce que c'est une formule « Livre pour adultes ». Alors, évidemment, en même temps, ça peut un peu induire en erreur. C'est pas du tout un livre... un livre grivois, comme on, ces livres pour adultes, voilà, qui étaient dans un rayon secret, caché dans les kiosques d'autrefois. Non, pas du tout, du tout. C'est un livre pour adultes, au sens où j'ai envie de dire, c'est un livre qui parle un peu de la mort et de choses. Mais j'espère pas d'une façon totalement sombre.
Ah non, non, du tout. D'ailleurs, on aura l'occasion d'en, d'en parler, j'espère. Mais peut-être tout d'abord sur, sur ce, ce mélange des genres. Vous disiez que c'était que vous mélangiez souvent l'autobiographie, des réflexions sur sur la société, sur sur le temps, sur notre époque. C'est dans ce livre-là extrêmement palpable. On a donc une structure avec plusieurs chapitres où parfois effectivement votre narrateur renvoie très clairement de manière très autobiographique à vous-même. Et puis il y a des chapitres complètement romanesques. Qui se tisse un peu autour du personnage d'une journaliste, Daisy Bruno. Et puis, on a effectivement des chapitres où ce sont des réflexions éparses sur, sur notre temps. Moi, j'avais un peu l'impression, finalement, que c'était un livre, de ce point de vue-là, très musical, parce que peut-être polytonal, pour le coup.
Oui, d'ailleurs, le livre commence par une rencontre avec Madeleine Millot, qui est une dame qui a 100 ans à ce moment-là. Elle est morte à 105
Madeleine.
Ans. Il y a beaucoup de centenaires dans le livre. Et donc, je vais souvent voir Madeleine. Et il se trouve que son mari, Darius Millot, c'était dans la musique moderne le grand maître de la polytonalité. Donc, c'est bien que vous fassiez cette référence, parce que c'est vrai que c'est un livre un peu à... un peu polytonal, on pourrait dire. Oui. Mais en fait, j'ai toujours eu envie d'écrire un livre qui mélangerait justement plein de registres différents. C'est une idée, une tentation, un désir que j'ai depuis que j'écris, mais que je ne suis pas le premier à avoir. Il y a des grands écrivains du XXe siècle, modernes, comme je sais pas, Dos Passos et d'autres comme ça, qui ont joué à mélanger les genres au sein d'un, d'un livre. Voilà, moi je l'ai fait à ma façon dans ce livre-là. Effectivement, avec ces, vous avez raison, ces trois trames, quoi, qui sont l'autobiographie, l'essai, la fiction, mais qui tous parlent de quelque chose qui est la disparition, en fait, puisque ce livre est né un petit peu de la disparition de ma mère, et que ça a été un peu le point de départ. C'est un fil conducteur du livre, mais c'est aussi pour parler de la disparition du monde dans lequel on a grandi, pour parler de voilà, la disparition d'une certaine... France, d'une certaine Europe, d'une certaine façon de vivre, etc., de plein de choses, mais aussi la disparition de soi-même et qui se précise quand on, quand on a passé 50 ans, etc. Tout ça, y a une grande unité de ce fait, mais il y a effectivement toujours des ruptures, puisque je peux aussi bien, après avoir réfléchi voilà, un peu sur la naissance, la mort, etc., la famille, tout d'un coup, après, raconter une histoire complètement loufoque, mais qui fait un peu toujours écho à ce qui précède.
Oui, justement, vous disiez rupture, mais c'est des ruptures qui n'en sont pas vraiment, finalement, puisque, alors, d'une part, il y a effectivement toute une réflexion qui traverse l'ensemble du roman, parce que c'est, même si c'est un roman à différentes formes, différentes tonalités, c'est clairement...
Pour moi, c'est un roman. Enfin, ça a été un débat, hein, parce que il m'a valu un peu de ne pas avoir le grand prix du roman de l'Académie française, parce que j'étais dans la dernière liste. Finalement, je suis arrivé que deuxième, mais notamment parce qu'un certain nombre de nos grands académiciens ont estimé que ce n'était pas un roman. Et je reconnais que ça peut se discuter. Moi, je considère que c'est un roman, mais...
Oui, bon, il valait mieux que ça se joue sur des questions de définition que sur des questions de qualité, finalement.
Voilà, non, ils aimaient bien le livre, même ceux qui n'ont pas voté pour.
D'accord. Oui, non, parce qu'en fait, on pourrait se dire, là, à nous entendre, mélange entre le romanesque, entre l'autobiographie. Je crois qu'il faut préciser, c'est pas du tout de l'autofiction, en l'occurrence.
Vous n'êtes pas
du tout dans cette démarche-là. C'est vraiment une démarche de regard sur la société qui se décline de différentes manières, avec différentes voix, mais qui est vraiment dans cette veine un peu, je pense ne pas vous froisser si je dis ça, mais un peu à la Houellebecq, mais avec votre regard à vous.
Bien sûr, voilà. J'aime beaucoup Michel Houellebecq, qui est un ami aussi et dont j'aime tous les livres.
on y reviendra d'ailleurs, parce qu'il y a un des chapitres clairement romanesques qui se passe sur une île, pour moi, avait des aspects et des tonalités complètement houellebecquiennes, pour le coup, dans ce cette île, un peu, enfin la possibilité d'une île.
J'aurais pu appeler ce chapitre La possibilité d'une île, qui est le nom d'un roman de Michel Houellebecq, effectivement.
Mais peut-être pour entrer plus directement dans le sujet du roman, vous l'avez dit tout à l'heure, que en fait le coup d'envoi, enfin du roman, c'est une réflexion finalement sur la maladie de votre mère, donc maladie d'Alzheimer, et puis ensuite sa disparition. Et c'est vrai que ça donne lieu à des considérations, d'une part sur la question du langage, puisque la maladie d'Alzheimer va aussi de pair avec une disparition qui est d'abord langagière avant autre chose. Et ça donne vraiment le ton de cette réflexion un peu mélancolique, mais qui sombre jamais dans un pathos que vous réprouvez, je crois, complètement.
C'était un peu le danger, d'ailleurs. J'aurais surtout pas voulu faire un livre témoignage sur la maladie d'Alzheimer. D'ailleurs, je crois qu'il y en a eu beaucoup, d'ailleurs. Mais il se trouve que c'est la maladie qu'a eu ma mère, effectivement, qui était une chose très, très pénible, parce que au début, ça commence de façon un petit peu joyeuse, comme ça, ces pertes de mémoire, etc. Ça peut être drôle même parfois. Hein. D'ailleurs, je raconte ça aussi. Et puis, malgré tout, et donc je me suis dit, même d'ailleurs, à un moment, au fond, cette folie, cette petite folie douce, c'est peut-être une très bonne façon de finir ses jours, comme ça, on n'est pas angoissé. Et en fait, non, c'est pas du tout passé comme ça, parce qu'au bout d'un moment, c'est l'enfermement sur soi. Et c'est au contraire une angoisse très forte qui ressort et que j'ai pu mesurer chez elle. Et donc, il y avait quelque chose de très cruel, de très violent. Et donc, j'ai voulu raconter simplement, ça c'est au début du livre, après ma rencontre avec cette centenaire que j'adore, qui s'appelle Madeleine. Et qui, elle, me laisse l'espoir que la vie pourrait durer indéfiniment, etc. Même si, même malgré tout, les centenaires, eux aussi, finissent par mourir au bout d'un moment.
Mais très tard.
voilà, plus tard. Et après, je raconte effectivement ma mère dans ce centre qui s'appelle Corian, voilà, qui est un lieu, une chaîne, parce qu'il y a des chaînes de maisons de vieux, etc.
Forcément.
Il y a des chaînes de tout, des marques de tout. Et qui est dans ce service d'Alzheimer où les gens se croisent sans se voir toute la journée, déambulent, sont complètement refermés sur une ou deux obsessions qui leur tiennent lieu de... Et effectivement, parlent de moins en moins bien, ne reconnaissent plus leurs proches. Voilà. J'ai voulu raconter ça d'une façon très factuelle, effectivement, sans pathos, comme vous dites, voilà, comme je l'ai vu. Mais c'est vrai que ça a soulevé chez moi peut-être une réflexion sur la mort qui était moins présente dans mes autres livres, parce que c'était ma mère sans doute, mais aussi parce que il y avait quelque chose d'assez injuste. Enfin, c'est toujours injuste la mort, justement, mais dans le fait que c'était plutôt quelqu'un qui avait toujours voulu nous enseigner la joie de vivre, la légèreté, la vie est merveilleuse, etc. Et qui tout d'un coup se retrouvait rattrapé par une mort assez rapide, assez précoce et assez sordide. Donc je me suis dit, il y a quelque chose de toujours injuste et de toujours violent dans la mort. La mort n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, à l'exemple de notre vie, ça peut être le contraire, etc. Et partant de là, voilà, j'ai voulu d'abord témoigner de cette expérience, mais à partir de là, voilà, réfléchir un peu sur la disparition des choses et des êtres qui nous entourent, en racontant des histoires. Voilà, mais celle de ma mère revient tout au long du livre, mais ce n'est pas la seule. Donc elle se mêle effectivement à d'autres récits sur le sujet, et aussi à des moments un peu de révolte, notamment dans le chapitre, la troisième partie du livre, où tout d'un coup... Voilà, c'est une scène sur la plage des Trotas, qui est un de mes lieux favoris, dont j'ai déjà parlé dans d'autres livres. Et j'aime bien les plages, parce que les plages, c'est le lieu où on voit le défilé des générations réduites à leur plus simple appareil, si j'ose dire. On voit les familles comme ça, surtout dans ces petites stations familiales où tout le monde se connaît, où il y a les grands-parents qui se traînent de plus en plus difficilement jusqu'au bain, et puis qui remontent, et puis les parents qui commencent à être grisonnants, et puis les enfants, les petits-enfants, et puis l'année d'après, c'est les grands-parents qui ont été remplacés par les parents l'année d'avant, etc. Il y a quelque chose d'extrêmement implacable comme ça dans la biologie, dans l'espèce humaine. Et donc là, j'ai un peu des accents de... Il y a un chapitre un peu polémique, où je me dis, mais au fond... ça n'a aucun sens. Est-ce que donner la vie, c'est pas simplement donner la mort? Est-ce que les parents réfléchissent dans leur inconscience quand ils font des enfants, etc.? Voilà, je fais plein de questions, je suis pas le premier à poser, et que je contredis aussi par d'autres réflexions. Mais voilà, tout ça était effectivement une réflexion qui naît la disparition de ma mère qui nous emmenait petits à la plage d'Étretat. On était à ce moment-là encore dans le rôle des petits, et elle dans le rôle des jeunes parents. Et voilà.
Cette scène de la plage d'Étretat, moi, ça m'a tout de suite fait penser à cette petite vidéo de Fabrice Lucchini qui est sur la plage et qui commente aussi les
ah ben bah je la connais pas
voilà ben voilà où il est à l'île de Ré puis il dit non mais là c'est fini l'île de Ré, il faut voir les générations, ça va être envahi. C'est un peu le même type de réflexion avec la réflexion sur la reproduction en moins, mais
voilà. Alors on a écouté un peu à la Cioran, quoi, de l'inconvénient d'être né, etc. Voilà, mais la volonté, mais c'est aussi le plaisir d'écrire des livres, c'est qu'on peut, avec un mélange de sincérité et de mauvaise foi, aller par moments très loin dans une idée, en l'exagérant, en la poussant jusqu'à son terme, etc. Et puis on peut aussi la contredire.
Alors juste pour revenir un tout petit peu encore sur votre mère, avant d'aller plus loin, j'ai été très frappée justement par cette description que vous donnez, effectivement très, 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 très factuelle de ce centre corian, alors notamment du côté complètement standardisé de dire bon, on pourrait s'imaginer que la société, déjà que maintenant les personnes âgées ne meurent plus en général à la maison, parce que c'est en général les familles, enfin la société n'est plus faite pour que les personnes puissent mourir parmi les leurs. Donc déjà, ils sont en établissement. On aurait pu imaginer que ces établissements soient beaux, soient agréables. Ben non, parce que c'est standardisé. Donc il faut que ce soit surtout sécurisé plus que beau. C'est plutôt ça l'idée, quoi.
Et propre. Mais ça, c'est un thème, en fait, d'ailleurs, qui parcourt tout le livre, hein, mais qui apparaît là pour la première fois, parce que quand je parlais de la transformation, la disparition, etc., derrière tout ça, il y a une chose extrêmement puissante, qui est les normes. Mmh. On vit au temps des normes, notre société passe son temps à édicter des normes, la France, l'Europe édictent des normes pour notre sécurité, pour notre hygiène, etc., pour les maisons de vieux aussi, pour... tout soit unifugé. Alors, on ne peut pas être dans des vieilles maisons trop jolies, parce qu'il faut tout refaire avec une espèce de matière appropriée.
C'est dangereux, on pourrait mourir.
Voilà, c'est ça. On pourrait oui, en plus, cette façon de vouloir protéger des mourants, c'est toujours un peu paradoxal. Mais en tout cas, voilà, on vit dans un monde qui est totalement et progressivement défiguré par les marques et par les normes. Mmh. Et ça vaut jusque dans, effectivement, dans ces maisons de retraite, dans ces maisons de vieux, mot, je ne sais pas si on peut encore l'utiliser, mais en tout cas, voilà. Donc c'est un thème qui revient tout le temps dans le livre après, et qui effectivement, vous l'avez bien noté, apparaît à propos de ces regroupements, des établissements de personnes âgées au sein de groupes qui se rachètent les uns les autres, et qui sont d'une certaine façon, c'est là aussi, parce que quand je parle aussi des marques et des normes, on peut voir ça dans les rues de Bordeaux, comme dans les rues de toutes les villes de France, c'est que les grands groupes finalement rachètent tout, tous les pas de porte, toutes les rues, tout le commerce, etc. Ils transforment l'allure même des villes, parce qu'ils sont les seuls à avoir les moyens justement d'acheter et de normaliser n'importe quel établissement. Et combien j'ai vu aussi bien à Paris de restaurateurs ou de petits établissements merveilleux qui fermaient parce qu'ils ne pouvaient pas s'adapter aux nouvelles normes. Et donc, c'est la victoire définitive à travers les normes de ces groupes comme ça, nationaux, multinationaux, qui en fait contrôlent de plus en plus nos existences, quoi.
D'ailleurs, vous avez écrit un petit livre l'année dernière sur la nostalgie des buffets de gare. Et je pense que, alors ça, moi, je viens d'une ville où il y avait récemment une immense polémique parce que justement, le buffet de la gare avait été remplacé par... un restaurant vegan, végétarien, bio, d'une grande chaîne, vegan, végétarienne, bio. Et la question était de savoir, voilà, mais non, mais c'est très bien parce que comme ça, on pourra se nourrir sainement avant de prendre le train. Ou ben non, quand même, le buffet de la gare, c'était vachement plus sympa quand on mangeait de la saucisse et qu'on buvait une bière.
Bah oui. Voilà. Comparer aussi comme ça les vieux comptoirs de la gare Saint-Lazare où on s'arrêtait pour prendre un croque-monsieur ou un café entre un clochard et un homme d'affaires comme ça. Et tout ça maintenant a été transformé en un grand centre commercial et c'est le triomphe absolu des marques. Alors là, effectivement, il n'y a que des marques.
À Bordeaux, ils ont un peu réglé le problème. En ce moment, comme c'est tout en travaux, on peut quasiment plus du tout boire de café. Donc, c'est pratique. Non, peut-être juste, ce qui m'a aussi frappé sur ces centres et qui, me semble-t-il, est un peu un autre sujet, c'est le fait que je vais me permettre, du coup, ces centres pour vieux, du coup, puisque vous l'utilisez, sont repoussés à la périphérie de la ville. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'évacuation de la maladie et de la mort des centres-villes, de la vie tout court, comme si quelque part c'était contagieux.
Oui. Oui, on pourrait le voir comme ça, mais c'est peut-être plutôt l'évacuation plus globale de toutes les activités hors du centre des villes, enfin des principales activités, parce que les centres... On voit plutôt la Maison de Dieu qui juxtapose le centre commercial, quoi.
C'est le
triomphe des grands espaces normalisés, justement. Oui.
Enfin, en tout cas, effectivement, c'est le point de départ d'une réflexion plus large sur, on va dire, ce qui peut rester à la fois des gens, des lieux, des personnes et des situations qu'on a aimées, de certaines atmosphères aussi. J'ai été très frappée par ce que vous décrivez tout au début du Pigalle, on va dire, des années bohèmes, des années folles, et du Pigalle parisien d'aujourd'hui, où, puisqu'on a perdu cette atmosphère-là, il faut maintenant la mimer, entre guillemets. Sauf que, évidemment, ce passage, on va dire, de l'authentique au toc, ne se fait pas sans une réelle perte.
Oui. Alors, effectivement, d'ailleurs, dans le livre... En fait, je parle de la disparition des êtres, mais aussi de la disparition des lieux, effectivement, on l'a dit. Et la disparition des lieux est axée dans ce livre sur un lieu dont on va sans doute parler, qui est la montagne, mais l'autre lieu qui est Paris. Et la touristification, c'est un de mes sujets favoris. Mais en l'occurrence, il se trouve que moi, j'habite un quartier, alors un des plus touristiques de France, puisque j'habite au pied de Notre-Dame, quasiment.
Ah oui.
Donc, je suis en fait dans une espèce de bazar à touristes qui ressemble encore un peu à Paris, quand même beaucoup, parce que les gens viennent pour voir quelque chose de Paris. Et ça a été fascinant. Je raconte ça aussi pour Pigalle au début du livre, mais la façon dont, au fil des ans, tout ce qui est resté comme vrai commerce, comme simple bistrot dans le quartier, notamment parce qu'il y a l'Hôtel Dieu à côté, donc il y avait tout le personnel, les infirmiers, etc., qui allaient dans les petits bistrots du coin. Et tout ça, peu à peu, s'est transformé, là encore, en une espèce de galerie marchande pour les touristes, et notamment les faux bistrots parisiens qui se sont installés à la place des vrais, c'est-à-dire des décors en toc qui miment un Paris disparu, devant lesquels on poste des serveurs déguisés en cultivateurs du Beaujolais ou je ne sais pas quoi, avec des casquettes, pour alpaguer les clients, un peu comme devant les pipe shows à Pigalle d'ailleurs, et pour les faire rentrer dans ces vrais établissements parisiens qui n'en sont absolument pas. Et il y a comme ça une transformation de Paris en image de Paris à l'intérieur des murs même de la ville, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui me frappe toujours beaucoup, parce que ça fait partie aussi de la disparition, qui est le thème de ce livre, mais c'est une disparition qui se prétend être une forme de conservation.
De conservation.
Et pourtant, il n'y a évidemment aucun rapport entre un bistrot de quartier où on pouvait s'accouder au zinc et ces nouveaux bistrots qui ont pour caractéristique d'être... même sous leur décor pseudo-français avec les petits carreaux Vichy, etc. En réalité, c'est des lounges, vous savez, c'est des endroits où on vous place, vous entrez, vous attendez qu'on vous installe quelque part, etc. Ça n'a plus rien à voir avec le bistrot. Enfin, on va dire que je suis nostalgique au bout d'un moment. Hein,
mais je crois qu'en fait, c'est un adjectif que vous revendiquez un peu,
oui,
non ?
Oui, bien sûr. Ouais. Non, mais d'abord, je pense que la nostalgie, c'est un sentiment poétique fort que... De tout temps, beaucoup d'artistes ont une espèce de petit moteur intérieur qui était une forme de nostalgie. On ne sait pas pourquoi, mais ça marche comme ça. C'est l'attachement aux choses qui disparaissent, qui fait qu'on a envie de les fixer, d'en garder quelque chose, etc. Et en même temps, ma nostalgie, elle a quelque chose de positif, puisque, au fond, comme j'explique à un moment dans le livre, le fait d'aimer les choses qui disparaissent, Ça nous permet d'en mieux voir la beauté d'une certaine façon. Quand elles sont encore banales et usuelles, on n'en saisit pas toujours la beauté. Quand elles disparaissent et qu'on essaie de saisir comme ça la fin de quelque chose, tout d'un coup, on comprend mieux ce que ça avait de beau. Et donc, on peut en faire quelque chose de beau, au moins du point de vue littéraire ou artistique ou pictural ou cinématographique, quoi.
C'est un peu à ça, d'ailleurs, je crois que renvoie en fait le titre. Et si vous voulez bien, je vais juste lire la phrase parce que je trouve qu'elle est extrêmement belle et que c'est ce que vous visez avec le terme adulte, c'est ce basculement-là. Oui. Et je vous cite, comme si l'âge venant, un mouvement naturel de l'âme aiguisait notre antipathie pour les temps qui viennent, ceux que nous ne connaîtrons pas. Et nous poussait à leur préférer ceux d'où nous venons, même avec leurs guerres et leurs malheurs qui, du moins, nous appartiennent. Et que finalement, ce livre-là est un livre qui parle des personnes et parle aux personnes qui se sont rendues compte finalement qu'ils étaient mortels.
Voilà, je suis d'accord. Mais c'est vrai que c'est un passage qui est presque, oui, comme un résumé de plusieurs choses.
Et alors, justement, dans ce vaste monde dont beaucoup de choses disparaissent, il y a un lieu que vous affectionnez particulièrement et dont vous parlez longuement et très, très bien, c'est ce petit village des Vosges où votre famille a très longtemps eu une maison, un moulin, en l'occurrence. Mmh. Et maintenant, je crois que vous avez réussi à réacheter dans la région.
C'est-à-dire que donc ce livre qui est parti un peu de la mort de ma mère, en même temps, c'était pour moi une occasion d'aller un peu, comme dirait l'autre, du côté de ma mère, vous voyez, et notamment dans ce pays vosgien, parce qu'elle y était très, très attachée. Elle avait, d'un côté, elle était originaire de Normandie, par sa famille, Coty,
oui,
etc.
Petite fille, voilà, du président René Coty.
Et ça, c'est tout le côté Étretat dont j'ai déjà parlé dans un livre qui s'appelle Les pieds dans l'eau. Donc c'est un côté plus bourgeois, si vous voulez. Par son père, qui était un médecin, mais qui est d'origine paysanne, comme beaucoup de sa génération, de la Troisième République, etc. Par son père, elle était originaire d'un petit village des Vosges et du monde paysan. Elle était extrêmement attachée, beaucoup plus d'ailleurs à ce côté-là qu'au côté normand. Et voilà, donc, et moi, il se trouve qu'elle m'a transmis dès le plus jeune âge l'amour de cette montagne où on passait toutes nos vacances. Mmh. Et pour moi, c'était un peu le paradis sur Terre, ces grandes prairies de montagne avec ces fermes dispersées, ces grandes forêts immenses, ces torrents, ces cascades. C'est dans la partie la plus montagneuse des Vosges. C'est assez beau, c'est assez spectaculaire. C'est assez humide, assez pluvieux, assez gris. mais c'était un monde enchanté pour moi quand j'étais enfant. Et j'ai voulu aussi, donc dans ce livre, un peu en écho avec cet attachement qu'on partageait avec ma mère pour les Vosges, raconter la transformation de ce monde paysan de la montagne, et d'ailleurs en l'occurrence sa disparition, que j'ai connue en un demi-siècle. Puisque quand j'étais tout petit, c'était encore quasiment une campagne du 19e siècle, avec ces fermes quasiment qui vivaient presque en autarcie, etc. Et aujourd'hui, il n'en reste absolument plus rien. C'est devenu une région touristifiée, mais l'agriculture paysanne a totalement disparu, comme dans beaucoup d'autres régions de France. Et voilà, j'ai voulu raconter parce que ça a rythmé mes vacances depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui, où j'ai effectivement une maison là-bas, où je vais d'ailleurs bientôt partir pour passer une grande partie de l'hiver. Au milieu de la neige, parce que c'est ce que j'aime, c'est quand la maison est un peu engloutie par la neige, ça c'est l'idéal. Et donc j'ai voulu raconter à travers les paysans que j'ai connus et qui sont tous maintenant dans le cimetière du village, et à travers leurs noms comme ça, en partant de ces petites promenades dans le cimetière, toute cette transformation en 50 ans, cette disparition, encouragée d'ailleurs d'une certaine façon par les pouvoirs publics de tout un monde. Qui, moi, me fait toujours rêver et qui, d'ailleurs, fait toujours un peu rêver les enfants, parce que quand on va voir les films, les grandes fantaisies populaires comme Le Hobbit, etc., qu'est-ce qui fait rêver, au fond, ce sont ces vieilles fermes avec leurs toits de chaume, leurs vieux jambons, leurs tonneaux de choucroute, etc. Et bientôt, les enfants croiront que c'est une chose de l'imagination des scénaristes d'Hollywood, mais c'est quelque chose que j'ai connu et que vous avez connu et qu'on a connu et qui existe de moins en moins. Et voilà, je voulais rendre la beauté de cette vie paysanne qui était dure, qui n'était pas forcément très drôle, que beaucoup de paysans ont voulu quitter d'ailleurs, ou leurs enfants, mais qui néanmoins avait une forme de beauté extraordinaire. Et notamment, j'explique ce paradoxe, parce qu'il reste, près de chez moi, il reste une ferme, par exemple, dans la montagne. Mais il y a là un inspecteur de l'hygiène, toujours les normes, qui vient régulièrement expliquer à la vieille fermière que bon, on vous laisse faire parce que vous êtes âgé, mais c'est une tolérance. Mais il lui parle comme s'il était une espèce de criminel qui, depuis 60 ou 70 ans, pratique une espèce d'agriculture.
Mais en danger la vie des autres.
Mais en danger la vie des autres. Alors qu'on vit, soi-disant, à l'époque du développement durable, et que cette ferme, en l'occurrence, est l'exemple parfait de ce qu'on essaie d'inventer en fabriquant maintenant des usines à gaz sur le thème du développement durable. Mais ça existe, le recyclage de tout, l'autarcie, l'agriculture de proximité, tout ça. Tout ça est totalement là dans la vieille ferme traditionnelle. Mais on explique à cette dame qu'en fait, elle est une espèce de criminelle, effectivement, et que théoriquement, pour suivre les normes hygiéniques de son époque, elle devrait avoir des gants en plastique, un masque sur la figure quand elle entre dans son étable, etc., ou quand elle sert du lait. Enfin voilà, une espèce de délire d'époque qui en plus est en contradiction avec les discours de l'époque. Donc voilà, je raconte un peu toute cette vie de mon village et ces figures que j'ai connues, jusqu'à elle, qui, j'espère, va durer encore longtemps, parce que c'est une ferme merveilleuse aussi.
C'est vrai que c'est très frappant, à la fois parce que vous expliquez bien que finalement ce qui est en train de disparaître, c'est le style de vie tel qu'il a été adopté et vécu par une grande majorité de l'humanité depuis le Moyen-Âge. Donc oui. En fait, c'est là qu'on se rend compte du temps passé qui est en train de disparaître.
Mais c'est vraiment une question, ça, qui est au centre du livre, parce que d'ailleurs, je dis bien que quand j'étais petit, qu'on allait dans les Vosges avec mon cousin, il disait « Le dernier des Mohicans ». Alors moi, ça me fascinait parce que je me disais, c'est ce titre, l'idée qu'on puisse voir mourir la dernière personne d'une civilisation, d'un monde, d'une tribu, comme ça, je trouvais ça extraordinaire. Et je ne savais pas que moi-même, je verrais disparaître d'une certaine façon les derniers paysans de montagne. C'est-à-dire comme... Alors après, j'essaie de relativiser, je dis mais au fond, justement, pour pas céder à la tentation de la nostalgie, au fond, toute notre vie n'est faite que de disparitions, et c'est ça le thème du livre, et on voit tous disparaître plein de choses. Mais je pense qu'il y a des disparitions qui sont plus importantes que d'autres, et je pense qu'effectivement, on vit, de par notre génération, de par notre naissance, à une époque où on a assisté à une disparition accélérée de choses qui existaient depuis des siècles et des siècles, et qui ont été liquidées en quelques décennies. Donc c'est plus qu'une disparition, c'est presque un changement de monde. Et moi, je le pense, en tout cas. Je pense qu'effectivement, même si on peut dire ça a toujours été comme ça, c'est toujours l'argument qu'on vous ressort. Déjà, les Grecs se plaignaient de ce qui disparaissait, etc. Oui, mais il y a des moments où c'est plus ça qui se passe qu'à d'autres moments. Et je pense qu'en l'occurrence, notre époque est une époque de disparition, de liquidation, de tournant accéléré vers autre chose, d'ailleurs, qui sera peut-être bien, mais apparemment, les gens ne sont pas tellement optimistes, en tout cas,
oui.
sur ce qui advient. Mais enfin, ça peut s'améliorer. Oui, les informaticiens sont peut-être optimistes, d'ailleurs.
Oui, ouais, enfin, ouais, il faudrait, ouais. Je ne sais pas s'il y a des informaticiens dans la salle, mais c'est vrai que toutes les réflexions que vous développez sur la question du développement durable, où finalement aujourd'hui on n'ose pas dire que le développement durable ce serait quelque chose de mal. Enfin, mais c'est évidemment pas ce que vous dites. Vous vous interrogez, je crois, sur le fait que on s'est tellement éloigné de quelque chose de naturel qu'on est obligé de recréer une espèce de simulacre de naturel qui finalement fonctionne beaucoup moins bien que ce qui était déjà en place et qu'on espère maintenant ramener sans dire qu'en fait il faudrait revenir à quelque chose de beaucoup plus simple au niveau de l'écologie.
Bah, oui, c'est vrai, le simulacre, comme vous disiez pour les cafés tout à l'heure, mais en plus de ça, c'est vrai, aujourd'hui il y a quand même des discours récurrent et juste d'ailleurs sur l'agriculture de proximité, il faut utiliser des produits fabriqués dans la région, etc. Sauf que l'administration et l'entreprise d'ailleurs, et la reine de notre époque, se sont évertués pendant 50 ans comme ça à détruire toute cette agriculture de proximité qu'on feint de regretter aujourd'hui. Et c'est pas pour ça qu'on la remet en place. On est vraiment souvent quand même dans une terrible contradiction entre le discours politique et la réalité des faits. Moi, ça m'avait frappé aussi à propos des trains, justement, on en parlait tout à l'heure, mais c'est la façon dont le même pouvoir, gouvernement, d'ailleurs, peu importe que ce soit de gauche ou de droite, c'était pareil avec le Grenelle de l'environnement, maintenant c'est la COP21, le même pouvoir met en avant comme ça son engagement pour la planète, etc., la COP21, et donc dont un des thèmes récurrents, c'est le maillage ferroviaire, l'accessibilité par le train de l'ensemble du territoire. Et dans le même temps, le même gouvernement libéralise le transport par autocar, qui, du fait de la concurrence, va conduire à la disparition encore accélérée d'un certain nombre de ces petites lignes de train, etc. C'est pareil pour l'agriculture de proximité. Je veux dire, on aura beau répéter que c'est très bien l'agriculture de proximité, je pense que la logique selon laquelle est gérée l'agriculture mondiale aujourd'hui pousse toujours plus d'échanges, plus de transports, de matériaux, de matières premières, de produits, etc., sur les mers, dans les airs, etc. Et ça diminue pas du tout. C'est le système induit ce qu'il critique.
Oui, tout à fait.
Et critique ce qu'il induit.
Non, mais ça, je pense que c'est très palpable dans votre livre. Et ce que j'ai trouvé très beau, c'est que toutes ces pages sur le monde rural donnent aussi lieu à des portraits de personnes rencontrées là-bas et montrent bien aussi peut-être une autre façon que les personnes vivant à la campagne ont peut-être de s'adresser les uns aux autres, de communiquer, comme on dirait aujourd'hui, mais disons tout simplement de se parler, d'échanger. Et ça pose, il me semble aussi, une autre des grandes questions de votre livre, qui est la question de la transmission. Ouais. C'est-à-dire, à un moment donné, comment est-ce qu'on fait pour transmettre quelque chose d'une génération à une autre, d'un monde à l'autre? Comment est-ce qu'on dit quelque chose de ce qu'on a vécu à ceux qui viennent ensuite.
Et en même temps, c'est vrai que ce grand chapitre central sur le fait une suite de portraits de paysans que j'ai connus. Alors, il y a le monsieur qui tient la scierie, il y a des vieilles fermières, il y a un bûcheron, il y a un type qui a un bistrot, etc. Mais je montre que ce n'est pas une vie tellement drôle.
Non, tout à fait.
D'ailleurs, il y avait beaucoup de suicides chez les paysans. C'est pas une idylle d'ailleurs. Un type de mon village comme ça qui se met la tête dans la rivière parce qu'il est mélancolique, profondément mélancolique, etc. Il y a l'alcoolisme, il y a les suicides, il y a la dureté de la vie, etc. Mais en même temps, j'ai rencontré aussi des vieilles paysannes parmi les dernières qui n'auraient changé leur vie pour rien au monde. J'en connaissais une dans sa petite ferme perdue, dans une haute vallée comme ça, qui collectionnait les revues de géographie et qui lisait des articles sur le monde entier comme ça, dans sa ferme. Mais où en même temps, où elle se sentait très heureuse et où elle voyait passer le berger avec ses moutons, etc. Et c'est vrai que...
D'ailleurs, vous-même, vous lisez Historia quand vous êtes...
Quand je suis dans les Vosges, je lis des vieux numéros d'Historia. Oui, je raconte ça aussi. Parce que j'ai fait tout un chapitre sur les plaisirs de la vie.
Oui, tout à fait.
Dont celui d'être tout seul au milieu de la neige dans ma maison, en train de boire un café en lisant une vieille revue d'histoire. La vie peut être faite de plaisirs très simples. Quand on a un tempérament joyeux... C'est le problème de ce livre, d'ailleurs, c'est que ce livre, il est... C'est une réflexion sur la mort, sur la disparition, sur des choses que j'aime pas, mais écrit par quelqu'un, moi en l'occurrence, qui a un tempérament plutôt joyeux et plutôt heureux. Donc il y a ce contraste entre une réflexion souvent pessimiste et en même temps une nature plutôt optimiste. Je crois que c'est un peu ce qui me caractérise et je pense que c'est ce qu'on sent un peu dans le livre.
Tout à fait.
Qui en même temps est toujours un peu à la recherche des petits bonheurs qui sembleraient, ou des grands bonheurs qui sembleraient par instant donner un sens à cette marche en avant vers le néant qui est quand même un peu aussi notre existence.
Oui, il y a ce chapitre où vous faites une liste des plaisirs qui évidemment on pense à un autre écrivain qui a travaillé sur la mémoire notamment et d'ailleurs aussi sur le souvenir d'enfance et qui a écrit Je me souviens, donc je pense à Georges Perec. C'est donc dans ce chapitre, il y a une liste des plaisirs, mais c'est aussi dans le tout dernier chapitre où vous reprenez tout ce qui fait que le monde, néanmoins, pour vous, reste enchanté et qui fait écho au chapitre « Ma mère avait raison » où vous expliquez que votre mère était d'un optimisme et d'une...
J'explique qu'elle avait tort et qu'elle avait raison.
Voilà, exactement. Il y a une ambiguïté sur le titre du chapitre.
Elle qui nous a toujours dit que la vie était merveilleuse a une mort sordide, qu'elle n'aurait pas aimé voir... Elle s'est toujours trompée en disant que la vie était merveilleuse, puisqu'en fait, non, la vie est une chose extrêmement terrible du fait de la mort. Et en même temps, est-ce qu'il ne vaut pas mieux vivre et être soi-même éduqué dans ce goût du bonheur, quand même, sans quoi la vie, alors pour le coup, est vraiment non seulement pénible à la fin, mais pénible pendant toute sa durée. Donc, est-ce que cette illusion n'est pas une illusion utile, voilà, en tout cas, moi, c'est cette illusion lucide qui me porte et qui me fait dire néanmoins dans les chapitres, oui, c'est ça, je vis dans un enchantement perpétuel. C'est un peu exagéré, mais c'est vrai que j'ai ce goût, oui. Je raconte, j'avais été très frappé. J'ai un ami à qui j'ai dédié le livre, d'ailleurs, qui est mort il n'y a pas très longtemps.
David Rochlin.
David Rochlin, qui était un artiste que j'aimais beaucoup. Et un jour, je lui avais dit, tu sais, bon, ce qui est bien, au moins, malgré tout ce qui ne va pas, c'est que je me lève tous les matins, je suis toujours très heureux quand je me lève. Mais ah bon ? Et j'avais été surpris de découvrir que dans son cas, il y avait des gens qui se lèvent toujours plus ou moins déprimés, avec juste une envie qui est de se recoucher. Et voilà, lui, il avait cette... Et pourtant, il était plus optimiste que moi sur la société. Lui, c'était le contraire. Il avait une nature mélancolique, mais une pensée optimiste. C'est le contraire. Et voilà, bon, c'est comme ça.
Oui, alors peut-être, avant qu'on parle un tout petit peu, je voulais quand même vous interroger aussi un peu sur la question de la musique, parce que dans votre œuvre, d'une manière générale, c'est quand même une question qui est importante. Je voulais juste peut-être parler un tout petit peu de cette question de la transmission et de la conservation, parce que dans un des chapitres que moi j'ai trouvé très, très drôle, je ne sais pas si c'est fondamentalement le but de ce chapitre-là, mais enfin moi il m'a beaucoup amusé, sur quand donc on a la journaliste Daisy Bruno qui va faire un reportage, elle est une des toutes premières journalistes à être admise sur ce que vous appelez donc l'île, qui a été fondée par un jeune milliardaire, Michael Works. Alors moi, j'ai tout de suite pensé à Steve Jobs, parce que Jobs Works.
Enfin, voilà, c'est entre Steve Jobs et Zuckerman. Oui, c'est ça, oui.
Donc, on comprend bien que c'est quelqu'un voilà, qui a fait fortune, à la fois dans les réseaux sociaux, enfin, dans ce monde-là, et qui donc rachète une île grecque avec quelques autochtones et va essayer de créer une société anti-consumériste. C'est là que c'est étonnant de sa part, qui a aussi notamment pour but de conserver toutes les connaissances humaines dans ce que vous appelez le monastère.
Oui, alors, on voit tout de suite, enfin, si j'ai été clair, du moins, que, vous voyez, je parle de la disparition du monde paysan des Hautes-Vosges, ça dans un registre autobiographique. Et puis après, il y a cette nouvelle qui est une fiction, qui est une fantaisie, mais qui, au fond, prolonge la même question. Est-ce qu'on peut conserver les choses artificiellement ? Est-ce qu'on peut conserver un mode de vie artificiellement ? On peut le faire peut-être si on est milliardaire. D'où l'idée de ce type qui, en plus, oui, c'est une contradiction, puisque sa vie est pleine de contradictions d'ailleurs, mais il a fait fortune dans l'Internet, il veut créer un monde entièrement préservé des atteintes de la modernité, mais vous savez, ça a toujours été comme ça, les gens très riches en général se convertissent au bouddhisme, ou à des choses voilà, qui les ramènent à une espèce de réalité simple, comme ça, et donc on peut très bien imaginer, d'ailleurs c'était un peu l'esprit aussi Steve Jobs, d'une certaine
oui,
façon,
tout à fait.
Voilà, il devait manger vegan et tout ça, bon, et donc voilà, il essaie de créer ce monde préservé, bon, qui va l'emmener dans des complications, ça, qui sont dans l'histoire, mais effectivement, il y a cette idée de conserver les sources originales, parce que c'est un peu une angoisse comme ça, enfin pas très importante, mais que j'ai quand même, et notamment parce que je suis producteur d'une émission de radio sur la musique, à France Musique.
Étonnez-moi Benoît,
et que je suis très très attaché aux vieux disques, etc., aux enregistrements disparus et tout ça. Bon, alors il y avait déjà eu... je pense que c'est un des points de départ de cette nouvelle, parce qu'il y avait eu la tentative, comme ça, la tentation de Radio France de se débarrasser de sa discothèque, qui est une des plus grandes discothèques du monde. Et j'en étais malheureux, parce qu'il y a tellement de trésors dedans inconnus. Mais surtout, il y avait cette doctrine selon laquelle la numérisation règle tous les problèmes, et on n'a plus besoin de garder en sorte que des fichiers de 0 et de 1, et que les sources d'origine ne servent plus à rien. Et moi, j'ai un attachement matériel aux choses, mais en plus, je crois que c'est un leurre, parce que D'ailleurs, je suis en train d'écrire un article sur ce sujet, parce que tout ça se répond, mais je pense que, par exemple, aujourd'hui, on s'habitue à utiliser des très mauvais sons.
Oui.
Parce que circulent sur Internet des quantités de fichiers sonores plus ou moins dégradés, compressés, etc. Pour ceux qui piratent des films, des piratages faits en salle avec des mauvais micros, etc. Et puis on recopie les choses, on les recompresse, etc. Il y a une circulation de sources extrêmement mauvaises qui nous transforme d'une certaine façon, peu à peu, notre oreille, notre façon d'écouter, la finesse de notre rapport au son. Et donc j'imagine que dans ce monastère creusé au sommet de l'île, sous la montagne, comme ça, mon milliardaire s'évertue à rassembler tous les disques originaux, les films originaux, les livres originaux pour conserver peut-être dans les nouveaux siècles barbares qui vont venir, comme le faisaient les moines du Moyen-Âge, comme ça, une espèce de mémoire de l'humanité qui existera toujours le jour où tout le cloud aura disjoncté et qu'on s'apercevra qu'on a perdu tout ce qu'on avait numérisé depuis le, voilà. Bon, tout ça, c'est aussi de la fantaisie d'écrivain. Voilà. Mais cela dit, la musique est assez présente dans ce roman parce que j'y... Alors justement, ça commence par ma visite chez Madeleine Millot, cette centenaire, veuve de Darius Millot. Mais je raconte aussi, et ça c'est lié aussi à mon émission de radio, comment je vais voir de temps en temps voilà, des très vieilles chanteuses, etc. Comme Suzy Delair, comme Léo Marjan, qui me racontent leurs souvenirs, etc. Et j'aime bien comme ça ce lien avec des personnes qui nous font voyager dans le temps. Quoi.
Oui, d'ailleurs, il y a un passage très touchant justement sur un...
Je vais voir un vieux chanteur dans sa maison de campagne qui n'a jamais eu de succès, qui pourtant était ami de Charles Trenet, qui a créé plusieurs chansons de Trenet parmi ses plus grands succès, comme Que reste-t-il de nos amours. C'est lui qui l'a enregistré le premier avant Trenet, qui lui avait passé. Et puis lui, ça n'a jamais marché. Il s'appelait Roland Gerbeau. Et voilà, je raconte une visite que je lui fais dans sa maison de campagne à 90 ans passés. Et j'arrive chez lui pour lui faire raconter sa vie. Alors d'abord, je comprends que ça ne va pas être simple parce que, en fait, il veut vraiment me raconter toute sa vie. Et quand je pensais faire ça en une heure, au bout d'une heure, on a juste commencé le premier chapitre. Voilà. Et il n'est pas prêt à se laisser. Mais surtout, au bout d'un moment. Il me dit, mais attendez, le plus important maintenant, c'est que je viens d'enregistrer un morceau. Il a 90 ans. Hein, et il a fait, avec un pianiste sur un piano pourri, comme ça, un enregistrement d'une chanson de charme dans le style des années 30 avec sa voix de chevrotante de vieillard. Et c'est vraiment un truc qui ne pourra jamais marcher. Mais
vous l'aviez passé,
tout coup,
je crois, quand même.
J'ai passé à mon émission de radio. Il espère tout d'un coup que son heure est enfin arrivée, etc. Et je m'attarde dans ce même chapitre où il y a tous ces... Surtout quand on était écrivain, quand on est artiste, c'est quelque chose qui est très frappant, c'est tous ces destins dont il ne reste rien, mais qui en même temps avaient le rêve de la gloire. Parce que, bon, évidemment, quand on se lance dans les métiers artistiques, on a toujours plus ou moins l'idée qu'on va laisser quelque chose, au moins pour un certain temps, qu'on va devenir célèbre. Puis il y en a beaucoup qui ne laissent presque rien, ou qui ont laissé quelque chose qui a disparu. Je raconte comme ça comment j'aime feuilleter les vieux albums de piano sur lesquels on voit des noms de dizaines de compositeurs qui tous ont cru qu'ils étaient Beethoven et dont il ne reste absolument rien, pas une ligne dans aucun livre d'histoire. Et je raconte mes promenades dans les cimetières avec ces tombes un peu glorieuses justement de ces artistes dont plus personne ne sait ce qu'ils ont fait. Et en même temps, voilà, j'essaie de saisir cette fragilité des choses. Comme ça,
oui, vous dites que vous avez une obsession des noms oubliés et des destins perdus, je crois, une très belle formule.
Oui, parce que c'est quand même le destin de la plus grande partie de l'humanité.
Oui, effectivement.
Voilà.
Mais ce que vous dites aussi, et qui est amusant, c'est que vous dites finalement, il y a comme ça une chance, une ultime chance des derniers survivants, même s'ils n'ont pas accédé à la gloire, le fait d'être le dernier, c'est, en fait, c'est eux
ça
qui racontent
l'histoire.
Ça leur
donne un petit privilège, voilà, parce qu'en même temps, voilà, ce vieux Roland que je vais voir traîner déjà mort. Tous ceux qui ont plus de succès que lui sont morts. Donc il peut donner sa version de l'histoire en dernier. Il n'y aura plus personne pour le démentir.
Et ça fait écho, je trouve, à une question que vous posez peut-être un peu en filigrane. Je ne sais pas si c'était voulu de la poser comme ça, mais la première, on va dire, petite nouvelle romanesque enchâssée dans le roman, met donc en scène Charles, qui a abandonné son métier d'avocat pour donc rédiger des notices pour un site internet sur la musique pour raconter 1000 chefs-d'œuvre classiques, donc en gros raconter l'histoire musicale du XXe siècle. Mmh. Et je trouvais que ça posait la question de savoir comment, qu'est-ce qui accède à la postérité? Comment est-ce que, qui décide de la valeur d'une œuvre? Comment est-ce qu'on raconte l'histoire de l'art, l'histoire de la musique, l'histoire de la littérature? Qu'est-ce qui est canonisé et qu'est-ce qui ne l'est pas?
C'est très complexe. Oui. C'est pourquoi, moi, enfin, on pourrait dire fort heureusement les très grandes œuvres, elles sont repérées, on finit.
Elles font peut-être moins débat, les très grandes.
Voilà. Mais après, il y a tellement d'autres choses. Je sais ça d'autant plus à travers la radio que moi j'ai un tempérament de fouilleur, donc j'aime aller retrouver comme ça des chefs-d'œuvre oubliés, des beautés disparues, effectivement, et ce sont des mondes où plus on s'avance, plus ça s'agrandit. Hein. Mm-hmm. Je veux dire, soit la chanson française d'avant-guerre, il y a évidemment Miss Tinguette et Maurice Chevalier, mais il y a des milliers de chansons et d'artistes. Et il y en a autant dans chaque pays, etc. Et quand on commence à fouiller comme ça, on redécouvre des continents qui sortent comme un tel l'Atlantide. Et moi, c'est quelque chose que j'aime faire, en tout cas, et que je peux faire de façon très agréable à la radio, puisque... Je ne suis pas là pour expliquer, je suis juste là pour passer, avec deux, trois petits mots de commentaire, les musiques que j'aime et que j'essaye de redécouvrir ou de faire redécouvrir au fil des ans. Ouais.
Et ce que vous suggérez d'ailleurs, parce que vous dites que vous en parlez volontiers à la radio, c'est que peut-être c'est d'ailleurs pas tout à fait la même chose de parler de la musique et d'écrire sur la musique. Parce qu'en fait, Charles se retrouve devant une espèce d'impasse. Lui,
c'est très dur d'écrire sur la musique. Ouais. Je pense que c'est quasiment impossible... C'est impossible de dire par les mots ce qu'est la musique. D'ailleurs, même Proust, quand il décrit la sonate de Vinteuil et la petite phrase, etc., il nous explique quelque chose qui a un rapport avec la musique, mais ce qu'on lit n'a rien à voir avec ce que peut provoquer l'écoute de la sonate de Franck ou autre dont il s'est inspiré. Chacun des arts ne fonctionne à travers son propre langage et peut pas se dire dans le langage d'un autre. Mais on peut peut-être encore plus expliquer quand même pour la peinture que pour la musique. La musique est très dure à dire. En tout cas, moi j'ai eu ce problème quand j'étais jeune critique musical. Tout d'un coup, moi qui n'aimais que la musique, qui adorais la faire entendre à mes amis, expliquer, faire repérer des passages, etc. Tout d'un coup, je devais écrire une notice et je me disais, mais j'ai rien à dire, mais qu'est-ce que je peux
vous
dire,
en parlez dans Tout doit disparaître, d'ailleurs.
Et je mets ça en scène dans une nouvelle aussi, dans ce livre, avec ce personnage qui se retrouve face à la même difficulté. D'où mon amour de la radio, parce que la radio, comme je vous dis, j'adore
entendre.
Ça. D'ailleurs, je vais vous le faire écouter. Voilà, ouais. C'est beaucoup mieux.
Alors, peut-être une dernière question avant de me tourner vers la salle, parce qu'il y aura peut-être des questions de la part du public. Peut-être si on se met d'accord pour dire que le livre donc tisse toute une réflexion autour de la question du temps et de la question de ce qui disparaît et de ce qui reste. Pour vous justement, du coup, le rôle de la littérature, est-ce que c'est aussi une façon, à la fois certes, de décrire ce qui se passe aujourd'hui, parce que vous avez donc vraiment ce regard acéré et mordant et très lucide sur la société qui nous entoure, mais peut-être que c'est aussi un acte conservateur, au bon sens du terme, de dire qu'est-ce que je peux faire passer par la littérature pas forcément aux générations qui suivent, mais de faire passer tout court.
Oui, bien évidemment. Moi, alors c'est vrai que, alors comme j'ai écrit beaucoup, voilà, souvent ce registre un peu poétiquement nostalgique, j'espère que parfois il y a des gens qui disent voilà, toi, tu aimes les choses du passé, mais en réalité, comme vous avez raison de le dire, mes romans parlent très largement autant du monde contemporain que du monde ancien. C'est souvent un peu d'une façon un peu critique. Drôle, mais la drôlerie en même temps, c'est un peu une façon de sauver les choses. Et donc voilà, je me suis toujours beaucoup intéressé à mon époque et dans tous mes livres. Mais c'est vrai en même temps que cette capacité de fixer des. Mais c'est toujours d'une façon très subjective, hein, mais des moments de notre expérience et notamment les beautés qui nous ont fait devenir ce qu'on est. Voilà, en l'occurrence, par exemple, ces beautés d'un petit village de montagne qui, moi, ont été essentielles dans mon. Et de la forêt hein, et des animaux, etc., dans mon éveil à la vie, au bonheur. Voilà, j'ai voulu, là, dans ce livre-là, très, très évidemment, essayer d'en fixer quelque chose. notamment cet enchantement de la forêt, par exemple. Hein. Je raconte comment... C'est ma mère qui nous avait acheté, quand on était petits, des albums du Père Castor, et c'est extraordinaire. Donc je me souviens de deux. Il y en a un qui s'appelait Mishka. Et c'est l'histoire d'un petit ours qui s'en va de chez sa maîtresse et qui part dans la neige et qui entre tout d'un coup dans la grande forêt. Et ça ressemble tellement les dessins qui sont d'un dessinateur russe un peu moderne qui était passé par l'Europe dans les années 30. Ça ressemble tellement à la forêt des Vosges que quand j'étais petit, il y avait une espèce de confusion entre le livre de Mishka et la réalité de ces petits enchantements dans la forêt. Et tout ça, c'est tout ça qui est aussi au fond de ce qu'on est, de notre capacité de bonheur ou d'enchantement. Tout ça reste très, très présent. Et puis l'autre, ça s'appelait Les bons amis. Mais c'est aussi une histoire dans la neige, comme ça, avec des animaux qui passaient. Et tout ça ressemblait tellement aux fermes vosgiennes, les maisons, etc. Donc ça me faisait rêver, en même temps que ça m'apprenait à lire et que c'était mon histoire et une autre histoire. Il y avait cette espèce de confusion qui est très, très, très importante. Je parle beaucoup dans ce chapitre sur les plaisirs de ces enchantements devant la nature. Et je me pose d'ailleurs la question, mais est-ce que les hommes préhistoriques s'enchantaient déjà devant la nature ou est-ce que c'est juste une perversion culturelle que de s'intéresser à la supposée beauté des choses? Mais ça, c'est une question que je n'ai pas encore résolue.
Benoît Duteurt, je vous remercie vraiment beaucoup.
Merci à vous.
C'est un grand plaisir. Et donc, vous savez que si vous voulez l'entendre un peu plus, c'est le samedi. Et je crois d'ailleurs que vous allez parler de Prévert samedi prochain. Voilà, merci beaucoup.